Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion. Chapitre 1er, l'obligation morale. Troisième partie. Fondateurs et réformateurs de religion, mystiques et saints, héros obscurs de la vie morale que nous avons pu rencontrer sur notre chemin et qui égalent à nos yeux les plus grands, tous sont là. Entraînés par leur exemple, nous nous joignons à eux comme à une armée de conquérants. Ce sont des conquérants, en effet. Ils ont brisé la résistance de la nature et haussé l'humanité à des destinées nouvelles. Ainsi, quand nous dissipons les apparences pour toucher les réalités, quand nous faisons abstraction de la forme commune que les deux morales, grâce à des échanges réciproques, ont prise dans la pensée conceptuelle et dans le langage, nous trouvons aux deux extrémités de cette morale unique la pression et l'aspiration. Celle-là, d'autant plus parfaite qu'elle est plus impersonnelle, plus proche de ces forces naturelles qu'on appelle habitude et même instinct. Celle-ci, d'autant plus puissante qu'elle est plus visiblement soulevée en nous par des personnes et qu'elle semble mieux triompher de la nature. Il est vrai que si l'on descendait jusqu'à la racine de la nature elle-même, on s'apercevrait peut-être que c'est la même force qui se manifeste directement en tournant sur elle-même, dans l'espèce humaine une fois constituée, et qui agit ensuite indirectement par l'intermédiaire d'individualités privilégiées pour pousser l'humanité en avant. Mais point n'est besoin de recourir à une métaphysique pour déterminer le rapport de cette pression à cette aspiration. Encore une fois, il y a une certaine difficulté à comparer entre elles les deux morales parce qu'elles ne se présentent plus à l'état pur. La première a passé à l'autre quelque chose de sa force de contrainte. La seconde a répandu sur la première quelque chose de son parfum. Nous sommes en présence d'une série de gradations ou de dégradations selon qu'on parcourt les prescriptions de la morale en commençant par une extrémité ou par l'autre. Quant aux deux limites extrêmes, elles ont plutôt un intérêt théorique. Il n'arrive guère qu'elles soient réellement atteintes. Considérons cependant en elles-mêmes, isolément, pression et aspiration. Immanente à la première est la représentation d'une société qui ne vise qu'à se conserver. Le mouvement circulaire où elle entraîne avec elle des individus se produisant sur place imite de loin, par l'intermédiaire de l'habitude, l'immobilité de l'instinct. Le sentiment qui caractériserait la conscience de cet ensemble d'obligations pures, supposées toutes remplies, serait un état de bien-être individuel et social comparable à celui qui accompagne le fonctionnement normal de la vie. Il ressemblerait au plaisir plutôt qu'à la joie. Dans la morale de l'aspiration, au contraire, est implicitement contenu le sentiment d'un progrès. L'émotion dont nous parlions est l'enthousiasme d'une marche en avant. Enthousiasme par lequel cette morale s'est fait accepter de quelques-uns et s'est ensuite, à travers eux, propagée dans le monde. Progrès et marche en avant se confondent d'ailleurs ici avec l'enthousiasme lui-même. Pour en prendre conscience, il n'est pas nécessaire de se représenter un terme que l'on vise ou une perfection dont on se rapproche. Il suffit que dans la joie de l'enthousiasme, il y ait plus que dans le plaisir du bien-être, ce plaisir n'impliquant pas cette joie enveloppant et même résorbant en elle ce plaisir. Cela, nous le sentons. Et la certitude ainsi obtenue, bien loin d'être suspendue à une métaphysique, est ce qui donnera à cette métaphysique son plus solide appui. Mais avant cette métaphysique, et beaucoup plus près de l'immédiatement éprouvé, sont les représentations simples qui jaillissent ici de l'émotion au fur et à mesure qu'on s'appesantit sur elles. Nous parlions des fondateurs et réformateurs de religion, des mystiques et des saints. Écoutons leur langage. Il ne fait que traduire en représentation l'émotion particulière d'une âme qui s'ouvre, rompant avec la nature qui l'enfermait à la fois en elle-même et dans la cité. Ils disent d'abord que ce qu'ils éprouvent est un sentiment de libération, bien-être, plaisir, richesse, tout ce qui retient le commun des hommes les laisse indifférents. À s'en délivrer, ils ressentent un soulagement, puis une allégresse. Non pas que la nature ait eu tort de nous attacher par des liens solides à la vie qu'elle avait voulu pour nous, mais il s'agit d'aller plus loin, et les commodités dont on se trouve bien chez soi deviendraient des gênes. Elles tourneraient au bagage encombrant s'il fallait les emporter en voyage. Qu'une âme ainsi mobilisée soit plus encline à sympathiser avec les autres âmes et même avec la nature entière, on pourrait s'en étonner si l'immobilité relative de l'âme, tournant en cercle dans une société close, ne tenait précisément à ce que la nature a morcelé l'humanité en individualités distinctes par l'acte même qui constitua l'espèce humaine. Comme tout acte d'une espèce, celui-ci fut un arrêt. En reprenant la marche en avant, on brise la décision de briser. Pour obtenir un effet complet, il faudrait, il est vrai, entraîner avec soi le reste des hommes. Mais si quelques-uns suivent, et si les autres se persuadent qu'ils le feraient à l'occasion, c'est déjà beaucoup. Il y a dès lors, avec le commencement d'exécution, l'espérance que le cercle finira par être rompu. En tout cas, nous ne saurions trop le répéter. Ce n'est pas en prêchant l'amour du prochain qu'on l'obtient. Ce n'est pas en élargissant des sentiments plus étroits qu'on embrassera l'humanité. Notre intelligence a beau se persuader à elle-même que telle est la marche indiquée, les choses s'y prennent autrement. Ce qui est simple au regard de notre entendement ne l'est pas nécessairement pour notre volonté. Là où la logique dit qu'une certaine voie serait la plus courte, l'expérience survient et trouve que dans cette direction, il n'y a pas de voie. La vérité est qu'il faut passer ici par l'héroïsme pour arriver à l'amour. L'héroïsme, d'ailleurs, ne se prêche pas. Il n'a qu'à se montrer, et sa seule présence pourra mettre d'autres hommes en mouvement. C'est qu'il est lui-même retour au mouvement, et qu'il émane d'une émotion, communicative comme toute émotion, apparentée à l'acte créateur. La religion exprime cette vérité à sa manière, en disant que c'est en Dieu que nous aimons les autres hommes. Et les grands mystiques déclarent avoir le sentiment d'un courant qui irait de leur âme à Dieu et redescendrait de Dieu au genre humain. Qu'on ne vienne pas parler d'obstacles matériels à l'âme ainsi aérée. Elle ne répondra pas que l'obstacle doit être tourné, ni qu'il peut être forcé. Elle le déclarera inexistant. De sa conviction morale, on ne peut pas dire qu'elle soulève des montagnes, car elle ne voit pas de montagnes à soulever. Tant que vous raisonnerez sur l'obstacle, il restera où il est, et tant que vous le regarderez, vous le décomposerez en parties qu'il faudra surmonter une à une. Le détail en peut être limité. Rien ne dit que vous l'épuiserez. Mais vous pouvez rejeter l'ensemble en bloc si vous le niez. Ainsi procédait le philosophe qui prouvait le mouvement en marchant. Son acte était la négation pure et simple de l'effort, toujours à recommencer et par conséquent impuissant, que Zénon jugeait nécessaire pour franchir un à un les points de l'intervalle. En approfondissant ce nouvel aspect de la morale, on y trouverait le sentiment d'une coïncidence réelle ou illusoire avec l'effort générateur de la vie. Vu du dehors, le travail de la vie se prête dans chacune de ses œuvres à une analyse qui se poursuivrait sans fin. Jamais on n'aura achevé de décrire la structure d'un œil tel que le nôtre. Mais ce que nous appelons un ensemble de moyens employés n'est en réalité qu'une série d'obstacles tombés. L'acte de la nature est simple et la complexité infinie du mécanisme qu'elle paraît avoir construit pièce à pièce pour obtenir la vision n'est que l'entrecroisement sans fin des antagonismes qui se sont neutralisés les uns les autres pour laisser passer, indivisible, l'exercice de la fonction. Telle une main invisible qui s'enfoncerait dans de la limaille de fer et dont l'acte simple apparaîtrait si l'on ne tenait compte que de ce qu'on voit comme une inépuisable série d'actions et de réactions que les brins de limaille exerceraient les uns sur les autres pour s'équilibrer réciproquement. Si tel est le contraste entre l'opération réelle de la vie et l'aspect qu'elle prend pour les sens et l'intelligence qui l'analyse, est-il étonnant qu'une âme qui ne connaît plus d'obstacles matériels se sente, à tort ou à raison, en coïncidence avec le principe même de la vie? Quelque hétérogénéité qu'on puisse trouver d'abord entre l'effet et la cause, et bien qu'il y ait loin d'une règle de conduite à une affirmation sur le fond des choses, c'est toujours dans un contact avec le principe générateur de l'espèce humaine qu'on s'est senti puiser la force d'aimer l'humanité. Je parle bien entendu d'un amour qui absorbe et réchauffe l'âme entière. Mais un amour plus tiède, atténué et intermittent ne peut être que le rayonnement de celui-là quand il n'est pas l'image plus pâle et plus froide encore qui en est resté dans l'intelligence ou qui s'est déposé dans le langage. La morale comprend ainsi deux parties distinctes, dont l'une a sa raison d'être dans la structure originelle de la société humaine et dont l'autre trouve son explication dans le principe explicatif de cette structure. Dans la première, l'obligation représente la pression que les éléments de la société exercent les uns sur les autres pour maintenir la forme du tout. Pression dont l'effet est préfiguré en chacun de nous par un système d'habitudes qui vont, pour ainsi dire, au-devant d'elle. Ce mécanisme dont chaque pièce est une habitude, mais dont l'ensemble est comparable à un instinct, a été préparé par la nature. Dans la seconde, il y a encore obligation si l'on veut. Mais l'obligation est la force d'une aspiration ou d'un élan, de l'élan même qui a abouti à l'espèce humaine, à la vie sociale, à un système d'habitudes plus ou moins assimilable à l'instinct. Le principe de propulsion intervient directement et non plus par l'intermédiaire des mécanismes qu'il avait montés auquel il s'était arrêté provisoirement. Bref, pour résumer tout ce qui précède, nous dirons que la nature, déposant l'espèce humaine le long du cours de l'évolution, l'a voulu sociable, comme elle a voulu les sociétés de fourmis et d'abeilles. Mais, puisque l'intelligence était là, le maintien de la vie sociale devait être confié à un mécanisme quasi intelligent. Intelligent, en ce que chaque pièce pouvait en être remodelée par l'intelligence humaine. Instinctif cependant, en ce que l'homme ne pouvait pas, sans cesser d'être un homme, rejeter l'ensemble des pièces et ne plus accepter un mécanisme conservateur. L'instinct cédait provisoirement la place à un système d'habitudes, dont chacune devenait contingente, leur convergence vers la conservation de la société étant seule nécessaire, et cette nécessité ramenant avec elle l'instinct. la nécessité du tout, sentie à travers la contingence des parties, est ce que nous appelons l'obligation morale en général. Les parties ne sont d'ailleurs contingentes qu'aux yeux de la société. Pour l'individu, à qui la société inculque des habitudes, la partie est nécessaire comme le tout. Maintenant, le mécanisme voulu par la nature était simple, comme les sociétés originellement constituées par elle. La nature avait-elle prévu l'énorme développement et la complexité indéfinie de sociétés comme les nôtres? Entendons-nous d'abord sur le sens de la question. Nous n'affirmons pas que la nature ait proprement voulu ou prévu quoi que ce soit. Mais nous avons le droit de procéder comme le biologiste, qui parle d'une intention de la nature toutes les fois qu'il assigne une fonction à un organe. Il exprime simplement ainsi l'adéquation de l'organe à la fonction. L'humanité a beau s'être civilisée, la société a beau s'être transformée, nous prétendons que les tendances, en quelque sorte organiques à la vie sociale, sont restées ce qu'elles étaient à l'origine. Nous pouvons les retrouver, les observer. Le résultat de cette observation est net. C'est pour des sociétés simples et closes que la structure morale originelle et fondamentale de l'homme est faite. Ces tendances n'en constitue pas moins ce qu'il y a de plus solide dans l'obligation. Si complexe que soit devenue notre morale, bien qu'elle se soit doublée de tendances qui ne sont pas de simples modifications des tendances naturelles et qui ne vont pas dans la direction de la nature, c'est à ces tendances naturelles que nous aboutissons quand nous désirons, de tout ce que cette masse fluide contient d'obligations pures, obtenir un précipité. Elle est donc la première moitié de la morale. L'autre n'entrait pas dans le plan de la nature. Nous entendons par là que la nature avait prévu une certaine extension de la vie sociale par l'intelligence, mais une extension limitée. Elle ne pouvait pas vouloir que cette extension allât jusqu'à mettre en danger la structure originelle. Nombreux sont d'ailleurs les cas où l'homme a trompé ainsi la nature, si savante et pourtant si naïve. La nature entendait sûrement que l'homme procréa sans fin, comme tous les autres vivants. Elle a pris les précautions les plus minutieuses pour assurer la conservation de l'espèce par la multiplication des individus. Elle n'avait donc pas prévu, en nous donnant l'intelligence, que celle-ci trouverait aussitôt le moyen de couper l'acte sexuel de ses conséquences et que l'homme pourrait s'abstenir de récolter sans renoncer au plaisir de semer. C'est dans un tout autre sens que l'homme trompe la nature quand il prolonge la solidarité sociale en fraternité humaine. Mais il la trompe encore. Car les sociétés dont le dessein était préformé dans la structure originelle de l'âme humaine et dont on peut apercevoir encore le plan dans les tendances innées et fondamentales de l'homme actuel exigeaient que le groupe fût étroitement uni, mais que de groupe à groupe, il y eût hostilité virtuelle. On devait être toujours prêt à attaquer ou à se défendre. Non pas, certes, que la nature ait voulu la guerre pour la guerre. Les grands entraîneurs de l'humanité, qui ont forcé les barrières de la cité, semblent s'être bien replacés par là, dans la direction de l'élan vital. Mais cet élan propre à la vie est fini, comme elle. Tout le long de sa route, il rencontre des obstacles, et les espèces successivement apparues sont les résultantes de cette force et de forces antagonistes. Celles-là poussent en avant, celles-ci font qu'on tourne sur place. L'homme sortant des mains de la nature, était un être intelligent et sociable. Sa sociabilité étant calculée pour aboutir à de petites sociétés, son intelligence étant destinée à favoriser la vie individuelle et la vie du groupe. Mais l'intelligence se dilatant par son effort propre, a pris un développement inattendu. Elle a affranchi les hommes de servitude auxquels ils étaient condamnés par les limitations de leur nature. Dans ces conditions, il n'était pas impossible à certains d'entre eux, particulièrement doués, de rouvrir ce qui avait été clos et de faire au moins pour eux-mêmes ce qu'il eût été impossible à la nature de faire pour l'humanité. Leur exemple a fini par entraîner les autres, au moins en imagination. La volonté a son génie comme la pensée, et le génie défie toute prévision. Par l'intermédiaire de ces volontés géniales, l'élan de vie qui traverse la matière obtient de celle-ci, pour l'avenir de l'espèce, des promesses dont il ne pouvait même être question quand l'espèce se constituait. En allant de la solidarité sociale à la fraternité humaine, nous rompons donc avec une certaine nature, mais non pas avec toute nature. On pourrait dire, en détournant de leur sens les expressions spinozistes, que c'est pour revenir à la nature naturante que nous nous détachons de la nature naturée. Entre la première morale et la seconde, il y a donc toute la distance du repos au mouvement. La première est censée immuable. Si elle change, elle oublie aussitôt qu'elle a changé ou n'avoue pas le changement. La forme qu'elle présente à n'importe quel moment prétend être la forme définitive. Mais l'autre est une poussée, une exigence de mouvement. Elle est mobilité en principe. C'est par là qu'elle prouverait. C'est même par là seulement qu'elle pourrait d'abord définir sa supériorité. Tenez-vous la première, vous n'en ferez pas sortir la seconde. Pas plus que d'une ou de plusieurs positions d'un mobile, vous ne tirerez du mouvement. Au contraire, le mouvement enveloppe l'immobilité. Chaque position traversée par le mobile étant conçue et même perçue comme un arrêt virtuel. Mais point n'est besoin d'une démonstration en règle. La supériorité est vécue avant d'être représentée et ne pourrait d'ailleurs être ensuite démontrée si elle n'était d'abord sentie. C'est une différence de ton vital. Celui qui pratique régulièrement la morale de la cité éprouve ce sentiment de bien-être commun à l'individu et à la société, qui manifeste l'interférence des résistances matérielles les unes avec les autres. Mais l'âme qui s'ouvre et aux yeux de laquelle les obstacles matériels tombent est toute à la joie. Plaisir et bien-être sont quelque chose. La joie est davantage. Car elle n'était pas contenue en eux tandis qu'ils se retrouvent virtuellement en elle. Ils sont en effet arrêts ou piétinement sur place, tandis qu'elle est marche en avant. De là vient que la première morale est relativement facile à formuler, mais non pas la seconde. Notre intelligence et notre langage portent en effet sur des choses. Ils sont moins à leur aise pour représenter des transpositions ou des progrès. La morale de l'Évangile est essentiellement celle de l'âme ouverte. N'a-t-on pas eu raison de faire remarquer qu'elle frise le paradoxe et même la contradiction dans les plus précises de ses recommandations? Si la richesse est un mal, ne nuirons-nous pas aux pauvres en leur abandonnant ce que nous possédons? Si celui qui a reçu un soufflet tend l'autre joue, que devient la justice sans laquelle Il n'y a pourtant pas de charité. Mais le paradoxe tombe, la contradiction s'évanouit, si l'on considère l'intention de ces maximes, qui est d'induire un état d'âme. Ce n'est pas pour les pauvres, c'est pour lui que le riche doit faire abandon de sa richesse. Heureux le pauvre en esprit. Ce qui est beau, ce n'est pas d'être privé, ni même de se priver. Ce n'est pas sentir la privation. L'acte par lequel l'âme s'ouvre a pour effet d'élargir et d'élever à la pure spiritualité une morale emprisonnée et matérialisée dans des formules. Celle-ci devient alors, par rapport à l'autre, quelque chose comme un instantané pris sur un mouvement. Tel est le sens profond des oppositions qui se succèdent dans le sermon sur la montagne. On vous a dit que, et moi je vous dis que. D'un côté le clos, de l'autre l'ouvert. La morale courante n'est pas abolie, mais elle se présente comme un moment le long d'un progrès. On ne renonce pas à l'ancienne méthode, mais on l'intègre dans une méthode plus générale, comme il arrive quand le dynamique résorbe en lui le statique, devenu un cas particulier. Il faudrait alors, en toute rigueur, une expression directe du mouvement et de la tendance. Mais si l'on veut encore, et il le faut bien, les traduire dans la langue du statique et de l'immobile, on aura des formules qui frôleront la contradiction. Aussi, comparerions-nous ce qu'il y a d'impraticable dans certains préceptes évangéliques à ce que présentèrent d'illogiques les premières explications de la différentielle. De fait, entre la morale antique et le christianisme, on trouverait un rapport du même genre que celui de l'ancienne mathématique à la nôtre. La géométrie des anciens a pu fournir des solutions particulières qui étaient comme des applications anticipées de nos méthodes générales. Mais elle n'a pas dégagé ces méthodes. L'élan n'était pas là qui eût fait sauter du statique au dynamique. Du moins, avait-on poussé aussi loin que possible l'imitation du dynamique par le statique. Nous avons une impression de ce genre quand nous confrontons la doctrine des stoïciens, par exemple, avec la morale chrétienne. Ils se proclamaient citoyens du monde et ils ajoutaient que tous les hommes sont frères, étant issus du même Dieu. C'était presque les mêmes paroles, mais elles ne trouvèrent pas le même écho parce qu'elles n'avaient pas été dites avec le même accent. Les stoïciens ont donné de fort beaux exemples. S'ils n'ont pas réussi à entraîner l'humanité avec eux, c'est que le stoïcisme est essentiellement une philosophie. La philosophie qui se prend d'une doctrine aussi haute et qui s'insère en elle, l'anime sans doute en la pratiquant. Tel, l'amour du Pygmalion insuffla la vie à la statue une fois sculptée. Mais il y a loin de là l'enthousiasme qui se propage d'âme en âme, indéfiniment, comme un incendie. Une telle émotion pourra évidemment s'expliciter en idées constitutives d'une doctrine, et même en plusieurs doctrines différentes qui n'auront d'autre ressemblance entre elles qu'une communauté d'esprit. Mais elle précède l'idée au lieu de la suivre. Pour trouver quelque chose d'elle dans l'Antiquité classique, ce n'est pas au stoïcien qu'il faudrait s'adresser, mais plutôt à celui qui fut l'inspirateur de toutes les grandes philosophies de la Grèce, sans avoir apporté de doctrine, sans avoir rien écrit, à Socrate. Certes, Socrate met au-dessus de tout l'activité raisonnable, et plus spécialement la fonction logique de l'esprit. L'ironie qu'il promène avec lui est destinée à écarter les opinions qui n'ont pas subi l'épreuve de la réflexion et à leur faire honte, pour ainsi dire, en les mettant en contradiction avec elles-mêmes. Le dialogue tel qu'il l'entend a donné naissance à la dialectique platonicienne et par suite à la méthode philosophique essentiellement rationnelle que nous pratiquons encore. L'objet de ce dialogue est d'aboutir à des concepts qu'on enfermera dans des définitions. Ces concepts deviendront les idées platoniciennes, et la théorie des idées, à son tour, servira de type aux constructions, elles aussi rationnelles par essence, de la métaphysique traditionnelle. Socrate va plus loin encore. De la vertu même, il fait une science. Il identifie la pratique du bien avec la connaissance qu'on en possède. Il prépare ainsi la doctrine qui absorbera la vie morale dans l'exercice rationnel de la pensée. Jamais la raison n'aura été placée plus haut. Voilà du moins ce qui frappe d'abord. Mais regardons du plus près. Socrate enseigne parce que l'oracle de Delphes a parlé. Il a reçu une mission. Il est pauvre et il doit rester pauvre. Il faut qu'il se mêle au peuple, qu'il se fasse peuple, que son langage rejoigne le parler populaire. Il n'écrira rien pour que sa pensée se communique, vivante, à des esprits qui l'apporteront à d'autres esprits. Il est insensible au froid et à la faim, nullement ascète, mais libéré du besoin et affranchi de son corps. Un démon l'accompagne, qui fait entendre sa voix quand un avertissement est nécessaire. Il croit si bien à ce signe démonique qu'il meurt plutôt que de ne pas le suivre. S'il refuse de se défendre devant le tribunal populaire, s'il va au-devant de sa condamnation, c'est que le démon n'a rien dit pour l'en détourner. Bref, sa mission et d'ordre religieux et mystique, au sens où nous prenons aujourd'hui ces mots. Son enseignement, si parfaitement rationnel, est suspendu à quelque chose qui semble dépasser la pure raison. Mais ne s'en aperçoit-on pas à son enseignement même? Si les propos inspirés, en tout cas lyriques, qu'il tient en maint endroit des dialogues de Platon, n'était pas de Socrate, mais de Platon lui-même. Si le langage du maître avait toujours été celui que Xénophon lui prête, comprendrait-on l'enthousiasme dont il enflamma ses disciples et qui traversa les âges? Stoïciens, épicuriens, cyniques, tous les moralistes de la Grèce dérivent de Socrate. Non pas seulement, comme on l'a toujours dit, parce qu'il développe dans ses diverses directions la doctrine du maître, mais encore et surtout parce qu'il lui emprunte l'attitude qu'il a créée et qui était d'ailleurs si peu conforme au génie grec, l'attitude du sage. Quand le philosophe, s'enfermant dans sa sagesse, se détache du commun des hommes, soit pour les enseigner, soit pour leur servir de modèle, soit simplement pour vaquer à son travail de perfectionnement intérieur, c'est Socrate vivant qui est là. Socrate agissant par l'incomparable prestige de sa personne. Allons plus loin. On a dit qu'il avait ramené la philosophie du ciel sur la terre. Mais comprendrait-on sa vie et surtout sa mort si la conception de l'âme que Platon lui prête dans le Phédon n'avait pas été la sienne? Plus généralement, les mythes que nous trouvons dans les dialogues de Platon et qui concernent l'âme, son origine, son insertion dans le corps, font-ils autre chose que noter en termes de pensée platonicienne une émotion créatrice, l'émotion immanente à l'enseignement moral de Socrate? Les mythes et l'état d'âme socratique par rapport auxquels ils sont ce que le programme explicatif est à la symphonie, se sont conservés à côté de la dialectique platonicienne. Ils traversent, en souterrain, la métaphysique grecque et reparaissent à l'air libre avec le néoplatonisme alexandrin, avec Ammonius peut-être, en tout cas avec Plotin, qui se déclare continuateur de Socrate. À l'âme socratique, ils ont fourni un corps de doctrine, comparable à celui qu'anima l'esprit évangélique. Les deux métaphysiques, en dépit de leur ressemblance, ou peut-être à cause d'elles, se livrèrent bataille, avant que l'une absorbât ce qu'il y avait de meilleur dans l'autre. Pendant un temps, le monde put se demander s'il allait devenir chrétien ou néoplatonicien. C'était Socrate qui tenait tête à Jésus. Pour en rester à Socrate, la question est de savoir ce que ce génie très pratique eût fait dans une autre société et dans d'autres circonstances s'il n'avait pas été frappé par-dessus tout de ce qu'il y avait de dangereux dans l'empirisme moral de son temps et dans les incohérences de la démocratie athénienne, s'il n'avait pas dû aller au plus pressé en établissant les droits de la raison, s'il n'avait ainsi repoussé l'intuition et l'inspiration à l'arrière-plan, et si le grec qu'il était n'avait maté en lui l'oriental qu'il voulait être. Nous avons distingué l'âme close et l'âme ouverte. Qui voudrait classer Socrate parmi les âmes closes? L'ironie courait à travers l'enseignement socratique, et le lyrisme n'y faisait sans doute que des explosions rares. Mais dans la mesure où ces explosions ont livré passage à un esprit nouveau, elles ont été décisives pour l'avenir de l'humanité. Entre l'âme close et l'âme ouverte, il y a l'âme qui s'ouvre. Entre l'immobilité de l'homme assis et le mouvement du même homme qui court, il y a son redressement, l'attitude qu'il prend quand il se lève. Bref, entre le statique et le dynamique, on observe une morale en transition. Cet état intermédiaire passerait inaperçu si l'on prenait au repos l'élan nécessaire pour sauter tout d'un coup au mouvement. Mais il frappe l'attention quand on s'y arrête, signe ordinaire d'une insuffisance d'élan. Disons la même chose sous une autre forme. Nous avons vu que le pur statique, en morale, serait de l'infra-intellectuel et le pur dynamique du supra-intellectuel. L'un a été voulu par la nature, l'autre est un apport du génie humain. Celui-là caractérise un ensemble d'habitudes qui correspondent symétriquement chez l'homme à certains instincts de l'animal. Il est moins qu'intelligence. Celui-ci est aspiration, intuition et émotion. Il s'analysera en idées qui en seront des notations intellectuelles et dont le détail se poursuivra indéfiniment. Il contient donc, comme une unité qui envelopperait et dépasserait une multiplicité incapable de lui équivaloir, toute l'intellectualité qu'on voudra. Il est plus qu'intelligent. Entre les deux, il y a l'intelligence même. Là fut demeurée l'âme humaine si elle s'était élancée de l'un sans aller jusqu'à l'autre. Elle eût dominé la morale de l'âme close. Elle n'eût pas encore atteint, ou plutôt créé, celle de l'âme ouverte. Son attitude, effet d'un redressement, lui aurait fait toucher le plan de l'intellectualité. Par rapport à ce qu'elle viendrait de quitter, une telle âme pratiquerait l'indifférence ou l'insensibilité. Elle serait dans l'ataraxie ou l'apathie des épicuriens et des stoïciens. Par rapport à ce qu'elle trouve de positif en elle, si son détachement de l'ancien veut être un attachement à du nouveau, sa vie serait contemplation. Elle se conformerait à l'idéal de Platon et d'Aristote. Par quelque côté qu'on la considère, l'attitude sera droite, fière, vraiment digne d'admiration, est réservé d'ailleurs à une élite. Des philosophies, parties de principes très différents, pourront coïncider en elles. La raison en est qu'un seul chemin mène de l'action confinée dans un cercle à l'action se déployant dans l'espace libre, de la répétition à la création, de l'infra-intellectuel au supra-intellectuel. Qui s'arrête entre les deux est nécessairement dans la région de la pure contemplation et pratique en tout cas naturellement, n'en tenant plus à l'un et n'étant pas allé jusqu'à l'autre, cette demi-vertu qu'est le détachement. Nous parlons de l'intelligence pure se renfermant en elle-même et jugeant que l'objet de la vie est ce que les anciens appelaient science ou contemplation. Nous parlons en un mot de ce qui caractérise principalement la morale des philosophes grecs. Mais il ne s'agirait plus de philosophie grecque ou orientale, nous aurions affaire à la morale de tout le monde, si nous considérions l'intelligence en tant que simplement élaboratrice ou coordinatrice des matériaux, les uns infra-intellectuels et les autres supra-intellectuels, dont il a été question dans le présent chapitre. Pour déterminer l'essence même du devoir, nous avons en effet dégagé les deux forces qui agissent sur nous, impulsion d'une part et attraction de l'autre. Il le fallait, et c'est pour ne pas l'avoir fait, c'est pour s'en être tenu à l'intellectualité qui recouvre aujourd'hui le tout, que la philosophie n'a guère réussi, semble-t-il, à expliquer comment une morale peut avoir prise sur les âmes. Mais notre exposé se condamnait ainsi, comme nous le faisions pressentir, à rester schématique. Ce qui est aspiration tend à se consolider en prenant la forme de l'obligation stricte. Ce qui est obligation stricte tend à grossir et à s'élargir en englobant l'aspiration. Pression et aspiration se donne pour cela rendez-vous dans la région de la pensée où s'élaborent les concepts. Il en résulte des représentations dont beaucoup sont mixtes, réunissant ensemble ce qui est cause de pression et ce qui est objet d'aspiration. Mais il en résulte aussi que nous perdons de vue la pression et l'aspiration pure, agissant effectivement sur notre volonté. Nous ne voyons plus que le concept où sont venus se fondre les deux objets distincts auxquels ils étaient respectivement attachés. C'est ce concept qui exercerait une action sur nous, erreur qui explique l'échec des morales proprement intellectualistes, c'est-à-dire en somme de la plupart des théories philosophiques du devoir. Non pas certes qu'une idée pure soit sans influence sur notre volonté, mais cette influence ne s'exercerait avec efficacité que si elle pouvait être seule. Elle résiste difficilement à des influences antagonistes, ou, si elle en triomphe, c'est que reparaissent dans leur individualité et leur indépendance, déployant alors l'intégralité de leurs forces, la pression et l'aspiration qui avaient renoncé chacune à leur action propre en se faisant représenter ensemble par une idée. Longue serait la parenthèse qu'il faudrait ouvrir si l'on voulait faire la part des deux forces, l'une sociale et l'autre suprasociale, l'une d'impulsion et l'autre d'attraction, qui donnent leur efficace aux mobiles moraux. Un honnête homme dira, par exemple, qu'il agit par respect de soi, par sentiment de la dignité humaine. Il ne s'exprimerait pas ainsi, évidemment, s'il ne commençait par se scinder en deux personnalités, celle qu'il serait s'il se laissait aller, et celle où sa volonté le hausse. Le moi qui respecte n'est pas le même que le moi respecté. Quel est donc ce dernier moi ? En quoi consiste cette dignité ? D'où vient le respect qu'il inspire? Laissons de côté l'analyse du respect, où nous trouverions surtout un besoin de s'effacer, l'attitude de l'apprenti devant le maître, ou plutôt, pour parler le langage aristotélicien, de l'accident devant l'essence. Resterait alors à définir le moi supérieur, devant lequel la personnalité moyenne s'incline. Il n'est pas douteux que ce soit d'abord le moi social, intérieur à chacun, dont nous avons déjà dit un mot. Si l'on admet, ne fût-ce que théoriquement, une mentalité primitive, on y verra le respect de soi coïncider avec le sentiment d'une telle solidarité entre l'individu et le groupe, que le groupe reste présent à l'individu isolé, le surveille, l'encourage ou le menace, exige enfin d'être consulté et obéi. Derrière la société elle-même, il y a des puissances surnaturelles dont le groupe dépend et qui rendent la société responsable des actes de l'individu. La pression du moi social s'exerce avec toutes ses énergies accumulées. L'individu n'obéit d'ailleurs pas seulement par habitude de la discipline ou par crainte du châtiment. Le groupe auquel il appartient se met nécessairement au-dessus des autres, ne fût-ce que pour exalter son courage dans la bataille. Et la conscience de cette supériorité de force lui assure à lui-même une force plus grande, avec toutes les jouissances de l'orgueil. On s'en convaincra en considérant une mentalité déjà plus évoluée. On songe à ce qu'il entrait de fierté, en même temps que d'énergie morale, dans le « civis sum romanus ». Le respect de soi chez un citoyen romain devait se confondre avec ce que nous appellerions aujourd'hui son nationalisme. Mais point du besoin d'un recours à l'histoire ou à la préhistoire pour voir le respect de soi coïncider avec l'amour propre du groupe. Il suffit d'observer ce qui se passe sous nos yeux dans les petites sociétés qui se constituent au sein de la grande, quand des hommes se trouvent rapprochés les uns des autres par quelques marques distinctives qui soulignent une supériorité réelle ou apparente et qui les mettent à part. Au respect de soi que professe tout homme en tant qu'homme, se joint alors un respect additionnel, celui du moi qui est simplement homme pour un moi éminent entre les hommes. Tous les membres du groupe se tiennent et s'imposent ainsi une tenue. On voit naître un sentiment de l'honneur qui ne fait qu'un avec l'esprit de corps. Telles sont les premières composantes du respect de soi. Envisagé de ce côté, que nous ne pouvons isoler aujourd'hui que par un effort d'abstraction, il oblige par tout ce qu'il apporte avec lui de pression sociale. Maintenant, l'impulsion deviendrait manifestement attraction si le respect de soi était celui d'une personnalité admirée et vénérée dont on porterait en soi l'image et avec laquelle on aspirerait à se confondre comme la copie avec le modèle. Il n'en est pas ainsi en fait, car l'expression a beau n'évoquer que des idées de repliement sur soi-même, le respect de soi n'en reste pas moins, au terme de son évolution comme à l'origine, un sentiment social. Mais les grandes figures morales qui ont marqué dans l'histoire se donnent la main par-dessus les siècles, par-dessus nos cités humaines. Ensemble, elles composent une cité divine où elles nous invitent à entrer. Nous ne pouvons pas entendre distinctement leur voix. L'appel n'en est pas moins lancé. Quelque chose y répond au fond de notre âme, de la société réelle dont nous sommes tous. Nous nous transportons par la pensée à la société idéale. Vers elle monte notre hommage quand nous nous inclinons devant la dignité humaine en nous, quand nous déclarons agir par respect de nous-mêmes. Il est vrai que l'action exercée sur nous par des personnes tend ainsi à devenir impersonnel. Et ce caractère impersonnel s'accentue encore à nos yeux quand les moralistes nous exposent que c'est la raison, présente en chacun de nous, qui fait la dignité de l'homme. Il faudrait pourtant s'entendre sur ce point. Que la raison soit la marque distinctive de l'homme, personne ne le contestera. Qu'elle ait une valeur éminente, au sens où une belle œuvre d'art a de la valeur, on l'accordera également. Mais il faut expliquer pourquoi elle peut commander absolument et comment elle se fait alors obéir. La raison ne peut qu'alléguer des raisons auxquelles il semble toujours loisible d'opposer d'autres raisons. Ne disons donc pas seulement que la raison présente en chacun de nous, s'impose à notre respect et obtient notre obéissance en vertu de sa valeur éminente. Ajoutons qu'il y a derrière elle les hommes qui ont rendu l'humanité divine et qui ont imprimé ainsi un caractère divin à la raison, attribut essentiel de l'humanité. Ce sont eux qui nous attirent dans une société idéale, en même temps que nous cédons à la pression de la société réelle. Toutes les notions morales se compénètrent, mais il n'en est pas de plus instructive que celle de justice. D'abord parce qu'elle englobe la plupart des autres. Ensuite, parce qu'elle se traduit, malgré sa plus grande richesse, par des formules plus simples. Enfin, et surtout, parce qu'on y voit s'emboîter l'une dans l'autre les deux formes de l'obligation. La justice a toujours évoqué des idées d'égalité, de proportion, de compensation. Pensare, d'où dérivent compensation et récompense, a le sens de peser. La justice était représentée avec une balance. Équité signifie égalité. Règles et règlements, rectitude et régularité sont des mots qui désigne la ligne droite. Ces références à l'arithmétique et à la géométrie sont caractéristiques de la justice à travers le cours de son histoire. La notion a dû se dessiner déjà avec précision dans les échanges. Si rudimentaire que soit une société, on y pratique le troc, et l'on ne peut le pratiquer sans s'être demandé si les deux objets échangés sont bien de même valeur, c'est-à-dire échangeables contre un même troisième. Que cette égalité de valeur soit érigée en règle, que la règle s'insère dans les usages du groupe, que le tout de l'obligation, comme nous disions, vienne ainsi se poser sur elle, voilà déjà la justice sous sa forme précise, avec son caractère impérieux et les idées d'égalité et de réciprocité qui s'attachent à elle. Mais elle ne s'appliquera pas seulement aux échanges de choses. Graduellement, elle s'étendra à des relations entre personnes, sans toutefois pouvoir de longtemps se détacher de toute considération de choses et d'échanges. Elle consistera surtout alors à régulariser des impulsions naturelles en y introduisant l'idée d'une réciprocité non naturelle. Par exemple, l'attente d'un dommage équivalent à celui qu'on aura pu causer. Dans les sociétés primitives, les attentats contre les personnes n'intéressent la communauté qu'exceptionnellement, quand l'acte accompli peut lui nuire à elle-même en attirant sur elle la colère des dieux. La personne lésée ou sa famille n'a donc alors qu'à suivre son instinct, à réagir selon la nature, à se venger. Et les représailles pourraient être hors de proportion avec l'offense si cet échange de mauvais procédés n'apparaissait pas comme vaguement soumis à la règle générale des échanges. Il est vrai que la querelle risquerait de s'éterniser. La vendetta se poursuivrait sans fin entre les deux familles si l'une d'elles ne se décidait à accepter un dédommagement pécuniaire. Alors se dégagera nettement l'idée de compensation déjà impliquée dans celle d'échange et de réciprocité. Que la société se charge maintenant de sévir elle-même, de réprimer les actes de violence quels qu'ils soient. On dira que c'est elle qui exerce la justice, si l'on appelait déjà de ce nom la règle à laquelle se référaient pour mettre fin à leurs différends les individus ou les familles. Elle mesurera d'ailleurs la peine à la gravité de l'offense, puisque sans cela, on n'aurait aucun intérêt à s'arrêter quand on commence à mal faire. On ne courrait pas plus de risques à aller jusqu'au bout. Œil pour œil, dent pour dent. Le dommage subi devra toujours être égal au dommage causé. Mais un œil vaut-il toujours un œil? Une dent toujours une dent? Il faut tenir compte de la qualité comme de la quantité. La loi du talion ne s'appliquera qu'à l'intérieur d'une classe. Le même dommage subi, la même offense reçue, appellera une compensation plus forte ou réclamera une peine plus grave si la victime appartenait à une classe plus haute. Bref, l'égalité peut porter sur un rapport et devenir une proportion. La justice a donc beau embrasser une plus grande variété de choses, elle se définit de la même manière. Elle ne changera pas davantage de formule dans un état de civilisation plus avancé quand elle s'étendra aux relations entre gouvernants et gouvernés et plus généralement entre catégories sociales. Dans une situation de fait, elle introduira des considérations d'égalité ou de proportion qui en feront quelque chose de mathématiquement défini et par là même d'apparemment définitif. Il n'est pas douteux, en effet, que la force n'ait été à l'origine de la division des anciennes sociétés en classes subordonnées les unes aux autres. Mais une subordination habituelle finit par sembler naturelle, et elle se cherche à elle-même une explication. Si la classe inférieure a accepté sa situation pendant assez longtemps, elle pourra y consentir encore quand elle sera devenue virtuellement la plus forte, parce qu'elle attribuera aux dirigeants une supériorité de valeur. Cette supériorité sera d'ailleurs réelle s'ils ont profité des facilités qu'ils se trouvaient avoir pour se perfectionner intellectuellement et moralement. Mais elle pourra aussi bien être qu'une apparence soigneusement entretenue. Quoi qu'il en soit, réelle ou apparente, elle n'aura qu'à durer pour paraître congénitale. Il faut bien qu'il y ait une supériorité innée, se dit-on, puisqu'il y a un privilège héréditaire. La nature, qui a voulu des sociétés disciplinées, a prédisposé l'homme à cette illusion. Platon l'a partagée, au moins pour sa république idéale. Si l'on entend ainsi la hiérarchie des classes, charges et avantages sont traités comme une espèce de masse commune qui serait répartie ensuite entre les individus selon leurs valeurs et par conséquent selon les services qu'ils rendent. La justice conserve sa balance, elle mesure et proportionne. De cette justice qui peut ne pas s'exprimer en termes utilitaires, mais qui n'en reste pas moins fidèle à ses origines mercantiles, comment passer à celle qui n'implique ni échange, ni service, étant l'affirmation pure et simple du droit inviolable et de l'incommensurabilité de la personne avec toutes les valeurs.